On fait comment pour se connecter au ciel? Partie 2. Article paru le 1er septembre 2012. Dites-moi, que faites-vous quand vous désirez vous connecter au ciel? Essayez-vous d'envoyer mentalement par votre troisième œil un message quelconque? Tendez-vous les mains, paume vers le ciel, ou essayez-vous d'entrer en résonance avec votre cœur? Peut-être faites-vous un mix de tout ça en même temps ou dans un séquencement précis. En fait, si on interrogeait chacun d'entre vous, nous découvririons que chacun y va plus ou moins à l'aveuglette, car tout simplement la notion de se connecter au ciel est en elle-même très floue, car non documentée dans les archives humaines. Alors, chacun se fait sa petite idée sans trop savoir ce qu'il doit atteindre. C'est à l'image de la notion de l'amour, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est exactement, car chacun voit midi à sa porte. Dit autrement, se connecter au ciel est aussi illusoire que vouloir se connecter à la terre, bien que dans ce dernier cas, on se sente plus à l'aise. Cependant, à chaque fois que quelqu'un vous dit de vous ancrer à la terre, vous avez du mal à saisir ce qui ne va pas chez vous, tout en sachant que l'autre vous fait comprendre que vous êtes trop dans le ciel. Qu'en clair, vous ne touchez plus terre et il vous faut revenir dans la réalité du monde, de la matérialité. Ainsi, par déduction, est ancré à la terre celui qui est dans la matière, dans la réalité tangible et vérifiable, tandis que le flayé, vous savez, l'évanescent, est celui qui n'est plus ancré, c'est-à-dire qui est dans un monde imaginaire, un monde virtuel, un monde non palpable et non quantifiable. En fait, on définit notre connexion au ciel comme étant le complémentaire opposé de l'ancrage à la terre, sans toutefois lui donner une véritable signification. Alors comment voulez-vous améliorer votre connexion au ciel si déjà vous ne savez pas à quoi ça rime exactement, à part que c'est le contraire de l'ancrage à la terre? Vous pouvez donc comprendre aisément que lorsqu'un problème est déjà flou à l'origine, cela ne simplifie aucunement sa résolution. Nous allons donc commencer par le commencement, c'est-à-dire par observer les outils que l'on nous a donnés afin de mieux cerner la nature de ce que nous devons appréhender. En effet, c'est comme votre main avec ses cinq doigts. Si on commence par décrire toutes les choses que l'on peut faire avec une main, voire les deux, la liste va être vraiment longue, voire infinie. Cela ne nous permettra pas, cependant, d'y voir plus clair. Il en est de même avec la connexion au ciel ou à la terre. Chacun y mettra de sa vision, il en résultera un rapport épais comme un bottin. Regardons donc chaque doigt, comment il s'articule avec lui-même et comment il interagit avec les autres. En gros, on pourra dire qu'il y a quatre doigts, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, quasiment de même structure, c'est-à-dire trois phalanges, la phalangine et la phalangette, et côte à côte, en parallèle. Tandis qu'un cinquième doigt, le pouce, n'a que deux phalanges et est en opposition avec les quatre autres doigts. On comprend donc aisément que c'est l'effet pince qui est primordial dans l'affaire. En effet, si par accident vous perdez votre pouce, vous allez avoir de gros soucis, au point que la majorité des choses listées dans le bottin soient carrément impossibles à faire. Par contre, si vous perdez un, deux ou trois doigts, le handicap sera de nettement moindre importance. En résumé, le pouce est aussi important que les quatre doigts qui sont en face. Cela fait que les deux phalanges du pouce ont autant de valeur que les 12 phalanges des doigts opposés. On est donc loin de la démocratie où chaque phalange aurait un droit de vote équivalent. On pourrait même presque dire l'ordre dans lequel nous pourrions nous amputer pour avoir le moins de dégâts possible. Ainsi, perdre la phalangette du petit doigt, vous savez, à la mode yakuza, rend plus difficile le nettoyage du nez ou de l'oreille. Mais à part ça, quoi d'autre véritablement? Par contre, perdre la première phalange du pouce aura nettement plus de conséquences au point que cela deviendra un début de handicap au travail. Alors, je ne vous dis pas si vous perdez la seconde, vous serez déclaré officiellement handicapé. Bref, je ne vais pas aller dans le détail, mais cela était pour vous faire comprendre que l'étude de l'outil, la main dans ce cas-là, amène une autre vision de la problématique qui a voulu être résolue par nos créateurs. Ainsi, en procédant de même concernant la connexion au ciel, on pourra voir ce qui est important de ce qui l'est moins. Ainsi, si l'on doit vous amputer de trois doigts sur une main, offrez l'auriculaire, l'annulaire et le majeur, dans l'ordre, afin de ne conserver que le pouce et l'index. Certes, vous ne pourrez plus jouer du piano comme tout le monde, mais au moins vous aurez l'essentiel, c'est-à-dire la capacité d'avoir une pince ultra précise et sensible dans votre quotidien. Bref, je vous laisse gamberger sur les autres options, tout en sachant que pour un droitier, sa main droite vaut beaucoup plus que la gauche. Là encore, on est loin de la démocratie où l'arithmétique simpliste veut que tout soit égal. En revenant donc à l'outil qui nous permettrait la connexion au ciel, on peut déjà commencer par dire que se connecter au ciel semble plus de la partie évanescente que de la partie matérielle qu'est la connexion à la Terre. En effet, instinctivement, on comprend que le moteur du ciel, chakra 5 et 6, fait plus dans la vibration, dans l'immatériel, alors que le moteur de la Terre, chakra 1 et 2, fait dans le palpable et le mesurable. Dit autrement, on s'attend à ce que l'antenne soit en haut, tandis que le bâtiment est bien ancré sur sa fondation, enfoui dans le sol. En clair, on comprend aisément que l'antenne, faite de matière, essaie de percevoir une onde invisible à nos yeux matériels, puis qu'ensuite cette onde puisse être interprétée par un décodeur situé à l'étage du bas dans la maison, qui est le moteur de l'humain, c'est-à-dire le chakra 3 et 4. Le signal radio capté par l'antenne sera donc traité par l'ordinateur situé au troisième chakra, et qui est le cerveau, le mental. Une fois décodé physiquement, alors la lecture du signal fera frémir ou non le chakra 4. En effet, le décodeur de la télé se fout de la nature de ce qu'il décode. Que vous receviez le journal télévisé, un documentaire ou toute autre émission, pour lui, c'est du pareil au même, puisque tout n'est que des variations électriques pour lui. Par contre, votre chakra 4, votre cœur, lui, il se fout du comment ça marche matériellement parlant, car c'est le contenu qui l'intéresse. Ainsi, une mauvaise nouvelle au journal télévisé ou une scène érotique auront des incidences différentes dans votre ressenti. Dit autrement, le mental décode de l'électrique tandis que votre cœur décode du magnétique. Or, que fait une antenne sinon transformer une onde électromagnétique en une onde électrique décodable par un appareil électronique? Cette antenne ne pourra fonctionner correctement qu'à la seule condition qu'elle soit branchée à la Terre, car le signal radio est une onde électromagnétique circulant dans l'aura de la Terre. Comme en électricité, il faut deux fils pour que cela circule, l'un des fils est la connexion à la Terre, tandis que l'autre est la connexion au ciel. La connexion à la Terre est appelée la masse, et pour en avoir une bonne, il est préférable d'avoir une bonne prise de Terre. Ainsi, quand on dit que quelqu'un est à la masse, cela indique qu'il n'a plus aucun signal radio lui provenant du ciel, et donc allant au cerveau. On en vient à conclure à un déraillement mental incompatible avec une normalité de fonctionnement. Voyons donc tout cela avec un petit dessin et une vidéo à l'appui. Vidéo numéro 1. Maintenant que vous avez compris le principe de l'émission-réception, vous pouvez déjà prendre conscience du principe de l'émission-réception qui s'appelle tout simplement la télépathie. Et puis, la télékinésie, par exemple, n'est que la même chose, mais en relation avec le monde minéral, en clair. La télépathie ne fait qu'utiliser le moteur de l'humain et le moteur du ciel pour transmettre de l'information issue du moteur de l'humain, soit des émotions, sentiments encodés selon le mental ego en vigueur. En télékinésie, vous commencez, vous communiquez et parlez directement avec le moteur de la Terre qui, dans sa partie minérale, vous obéira tout simplement puisque animé par une autre forme de vie. Ainsi, en passant vibratoirement dans la partie masculine du moteur du ciel, la 5D, le cinquième chakra, la co-création consciente et responsable, vous accédez obligatoirement à la partie matérielle masculine de son complémentaire opposé, qui est le premier chakra ou monde minéral. Voici la raison pour laquelle, lors du processus de l'ascension, le respect doit être le plus total envers toute forme de vie. Ainsi, si vous êtes encore dans le cannibalisme biologique, c'est-à-dire la destruction du décodeur-encodeur qui est la partie matérielle du moteur de l'humain, soit le monde animal, troisième chakra et 3D, vous êtes mal barré pour ascensionner. En effet, l'ascension correspond à mettre en marche et remettre pour nous le moteur de l'humain en sortant de l'opposition dualitaire entre le mental et le cœur. Donc, tant que vous n'aurez pas fait la paix entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'information rendue visible et votre décodeur trafiqué, falsifié par votre mental ego, vous ne pourrez accéder à la puissance supérieure qu'est la co-création dans le moteur de la Terre, c'est-à-dire la matérialisation de ce qui se passe en votre esprit, le grand, et non le rikiki que vous pensez avoir dans la tête et qui n'est que l'ombre projetée, une espèce de fantôme astral. On constate donc logiquement que plus la vibration de 4D se fera présente sur Orantia Gaia, et plus les décodeurs encrassés vont devoir mettre à jour leur mode de fonctionnement. Vous savez, les fameux codecs, abréviation de codeur-décodeur. L'upgrade logiciel est impératif. On comprend donc pourquoi ça chauffe beaucoup dans le bocal et que ça va disjoncter de plus en plus souvent chez tout le monde. Bien, voici le premier point que je voulais aborder en vous faisant comprendre matériellement que se connecter au ciel via le chakra 6 n'a rien à voir avec une connexion avec votre 7e chakra. La vision linéaire car verticale des chakras est une impasse totale si vous voulez vous connecter au Dieu. Le seul truc que vous puissiez faire est de vous connecter à une source d'information, mais rien de plus. Reste donc à savoir quelle source. Et c'est là que vous comprendrez que si l'onde radio humaine arrive à fonctionner correctement, c'est parce que le ciel que nous voyons est tout simplement l'astral. Dit autrement, votre 6e chakra, aujourd'hui en ce monde 3D falsifié, est branché sur la plus grande source d'emmerde, puisque c'est tout bonnement la source locale, totalement trafiqué par les forces de l'ombre et que l'on appelle l'astral. Alors ceux qui se croient plus forts que les autres parce qu'ils sont médiums sont en fait les relais de ce qui nous maintient dans l'ignorance. On peut donc comprendre la raison pour laquelle la fierté d'un individu qui se croit connecté et qui s'étiquette médium démontre une sérieuse tendance à gonfler l'ego et à se mettre au-dessus du lot des endormis qui l'entourent. La marque d'un mental ego est la séparation d'avec les autres. Pour cause de supériorité. Vous comprenez donc pourquoi j'ai foncé dans le tas il y a quelques années de cela. Certes, un certain nombre de mes lecteurs ont supprimé tout contact avec mes écrits parce que tout simplement j'ai annoncé clairement que tout travailleur de lumière qui se dit médium voire canal en balançant de l'étiquette à tout va est en fait celui ou celle qui s'abreuve à une source. Et c'est vrai que l'astral est une source, mais qui est autant, sinon plus trafiqué que les écrits bibliques eux-mêmes. D'ailleurs, les deux sont liés puisque la majorité des écrits bibliques sont au départ des canalisations. On ne peut attirer les mouches avec du vinaigre, alors on distribue du miel, auquel on rajoute ensuite toutes les déformations nécessaires à vous embrouiller le décodeur. Il y a donc la magie noire et la magie blanche. Mais le principe reste le même. Acquérir des pouvoirs pour mieux dominer ou soi-disant repousser les forces de l'ombre, ce qui reste, au final, c'est un renforcement du mental ego dans toute sa splendeur. Être télépathe n'est pas un pouvoir à acquérir, c'est juste une fonction naturelle qu'il nous faut redécouvrir. Un bébé est télépathe, mais dès qu'on lui bourrera le mou avec des codes de conduite et des façons de voir la vie, il deviendra assez vite bouché à l'émerie. Il faut donc faire la différence entre celui qui se décrasse par envie de retrouver ses fonctions originelles et celui qui apprend et étudie des formules magiques pour dominer les autres. On ne peut dissocier magie de magouille. Alors qu'elle soit blanche ou noire, on s'en fout. Car c'est vouloir faire croire qu'une cigarette avec filtre est meilleure, comprendre, moins nocive, que sans filtre. C'est vrai, en relatif, mais dans l'absolu, il serait largement préférable de ne plus être fumeur du tout, afin d'éviter toute la nocivité. Être télépathe, oui, mais croire que cela vous rend supérieur aux autres, non. Ceux qui ne font pas la différence entre capter une information qui rentre en résonance avec votre nécessité évolutive naturelle du moment, et ceux qui cherchent à tout prix à aller soutirer de l'info pour un profit personnel sonnant et trébuchant, autant financièrement qu'au niveau de l'ego, chercheront à vous embrouiller les neurones et les sentiments afin de continuer à vous dominer. Il n'y a nulle supériorité à ressentir par rapport à tous les élèves de l'humanité. Ce n'est pas parce que vous êtes en 3e qu'il faut vouloir dominer les élèves de 6e ou de 5e. Bien au contraire. Vous devez d'être plus aimant, plus inconditionnel, afin qu'ils bénéficient de votre propre expérience de décrassage. bien qu'étant élève vous-même, vous n'êtes pas là pour briller aux yeux de tous, mais pour humblement faire en sorte que les autres bénéficient de vos expériences d'essais-erreurs afin qu'ils puissent s'épanouir plus rapidement. Cela ne les empêchera pas de tomber dans les mêmes traquenards, mais seulement ils y resteront moins longtemps. Si vous devez apprendre à résoudre une équation en utilisant un théorème particulier, car tout le monde a le même devoir à remplir pour passer à l'étape suivante, ce sera toujours plus facile si un élève pédagogue vous explique bien le théorème, en complément du monologue raconté par un prof perroquet complètement blasé. Celui qui sait et qui a compris le fonctionnement intrinsèque et inné de l'univers aide et partage inconditionnellement de toutes ses tripes. Alors que celui qui se sert de cela pour en tirer avantage en termes de domination sur son prochain démontre inéluctablement qu'il est encore dans le mental ego, dans le service à soi, malgré ses apparences de service à autrui. Il veut simplement briller aux yeux des autres. Bref, dans le prochain article, j'aborderai un autre angle de la mécanique humaine pour vous faire découvrir une autre facette du comment se connecter au ciel physiquement parlant. D'ici là, bonne continuation.